Quatrième chapitre.
Évolution de l'uniforme sous Louis XVI, 1774 à 1792.
Lorsque Louis XVI devint roi de France en 1774, les forces militaires du pays comptaient 130 400 hommes répartis en 100 000 fantassins, 23 900 cavaliers et 7 400 artilleurs et mineurs. L'infanterie comptait 65 régiments français et 26 régiments étrangers. Ces corps étaient régis par l'ordonnance de 1762. La cavalerie était composée de 30 régiments, les dragons de 17, les hussards de 4. L'uniforme dans les armées avait bien évolué sous les règnes précédents et c'est le justaucorps qui, au cours de ces années, avait subi les plus grandes transformations. Initialement porté comme un manteau, les pans avant de sa jupe furent d'abord relevés jusqu'au niveau du ceinturon, puis les pans arrière furent retroussés à leur tour. Les régiments se distinguaient alors par les couleurs de la doublure, du col et des parements. Plus tard, on l'échancra sur le devant afin de mettre à découvert la veste sur laquelle fut désormais porté le ceinturon. On lui ajouta alors des revers de couleur sur la poitrine, sur le col, des pattes boutonnées sur les épaules, de fausses poches de hanches. On le garnit de boutons métalliques en cuivre ou en étain qui furent par la suite argentés ou dorés et qui participèrent à la distinction des régiments. Après 1760, les fantassins reçurent les guêtres longues pour protéger leurs jambes. Une paire blanche pour l'été et une paire noire pour l'hiver. Enfin, à compter de 1762, l'épaulette d'or ou d'argent fut imposée comme un signe de grade. La veste, jusqu'alors cachée par le justaucorps, participa également à distinguer les régiments par sa couleur. Le tricorne, qui était la seule coiffure dans les armées, reçut une forme plus resserrée. D'autres coiffures firent leur apparition, le casque qui équipa dans un premier temps quelques régiments d'infanterie, mais principalement les dragons, le bonnet à poil pour les grenadiers, le shako pour les hussards. L'habit fut alors beaucoup plus ajusté au corps, et l'on décida d'une couleur de fond unique pour chaque arme. On affecta le blanc à l'infanterie, le bleu à la cavalerie, le vert aux dragons et aux hussards. La distinction des régiments se fit alors sur les couleurs des parements, revers et collets qui avaient été réglés pour chaque corps. Dans la cavalerie, l'habit éprouva le même changement de coupe que dans l'infanterie. La position du ceinturon sur la veste ne tarda pas à amener l'abandon de l'épée pour le sabre. Suspendu au bout de deux lanières de buffle, il s'attachait plus commodément que l'épée après le ceinturon passé sous l'habit. À la veste de peau fut substitué un gilet du nom de buffle sous lequel se glissait un plastron de plusieurs épaisseurs de toile. La culotte de peau et celle de tricot blanc, le manteau, les bottes longues et la discrète complétèrent l'habillement du cavalier.
1775. L'uniforme impose hygiène et discipline.
Après avoir rétabli en régie l'administration de la masse destinée à l'habillement et l'équipement des troupes, le maréchal Dumuy, ancien ménin de Louis XVI et nouveau secrétaire d'État à la guerre, publia, le 2 septembre 1775, un règlement concernant l'habillement et l'équipement de l'infanterie et des troupes légères. Ce règlement, qui apportait au précédent plus de précision sur certains détails de l'habillement et en modifiait quelques autres, mettait davantage l'accent sur l'hygiène et la propreté du soldat. Dumuy n'entendait pas que l'uniforme fût porté avec négligence, comme un simple vêtement sans signification. Il voulait donner à ses soldats une allure générale qui force l'admiration et le respect. Si l'homme était habillé, il devait porter l'uniforme avec fierté, encore fallait-il que ce vêtement soit bien ajusté, bien porté, propre et sans accrocs et que celui qui en était vêtu soit propre et présentable. C'est ainsi qu'il fut défendu aux soldats de cirer ou de graisser ses moustaches. Cette pratique, décrite comme malpropre, occasionnait des lésions cutanées. On apporta une attention particulière aux cheveux. Il ne devait plus être lié en catogan ou en tresse, car reconnu nuisible à la propreté et à l'image du fantassin, mais lié en queue par un ruban qui devait être régulièrement lavé afin qu'il n'encrassât pas les habits. La queue ne pouvait dépasser 12 à 14 pouces de long. Les cheveux devaient être coupés court dessus la tête, ceux des tempes roulés en boucle. Ils pouvaient être poudrés les jours de service et de parade seulement. Le soldat devait avoir le visage bien net et porter une tenue parfaitement ajustée suivant les prescriptions imposées dans ce règlement. Ainsi, le col droit et blanc devait couvrir celui de la chemise, la veste devait être entièrement boutonnée et ajustée aux hanches. Le chapeau de feutre noir, orné de sa cocarde de basin blanc, devait être enfoncé sur le sourcil droit, la corne du devant placée au-dessus du sourcil gauche. La culotte devait couvrir le genou, les guêtres enveloppaient le cou de pied et la cheville. Les souliers avec talons et boucles étaient les seuls autorisés sous les armes. L'image du militaire discipliné et présentable devait également s'imposer au sein des populations. À présent, les soldats ne pouvaient plus sortir du quartier sans s'être présentés aux sous-officiers du jour qui jugeaient de sa présentation. Ceux qui étaient trouvés dans les rues malpropres ou avec une tenue mal ajustée étaient ramenés au quartier et sanctionnés. Pour l'entretien et la conservation de l'habillement et de l'équipement, ce règlement rappelait les instructions données dans les précédentes ordonnances. Il renouvelait l'interdiction d'utiliser certains procédés de nettoyage reconnus caustiques et corrosifs et par conséquent préjudiciables à la durée des vêtements. Pour économiser le chapeau, le casque, le bonnet à poils et le shako, le bonnet de police fut maintenu au sein des effets réglementaires pour le service intérieur et dans les camps. Toutes ces instructions firent apparaître un petit équipement réglementaire pour permettre aux soldats d'être toujours présentables. À cet effet, chaque soldat perçut, entre autres choses, un ruban de queue, un sac à poudrer sa houppe, un peigne à retaper, un peigne à décrasser, des plombs pour les boucles des cheveux, une brosse pour l'habit et chapeau, deux brosses pour les souliers, une petite brosse pour nettoyer le cuivre, un pinceau pour blanchir la buffleterie, un dé à coudre, du fil, des aiguilles, un tire-bouton, un tire-bourre, une épinglette, un tournevis, des morceaux de vieux drap pour frotter les taches de son habit et du vieux linge pour nettoyer son arme. La paye du soldat étant absolument nécessaire à sa subsistance, le maréchal Dumuy créa une masse particulière qu'il appela masse de propreté. Celle-ci était destinée à financer les frais de la propreté et de la tenue du soldat. On vit apparaître à cette occasion des petits magasins d'approvisionnement, préfigurant ce qui deviendra plus tard les économates militaires. Cette fonction fut dévolue aux fourriers qui, au moyen de la masse de propreté, devaient continuellement s'approvisionner en savon, cire pour les gibernes, de noir composé pour les guêtres, de la terre à détacher, du blanc de céruse, de la terre de pipe pour les parties de buffle, de l'huile et de la poudre pour les cheveux. Avec ce règlement, toute l'infanterie fut en drap blanc, avec culotte et doublure blanche et le collet droit. Les poches de l'habit étaient liserées de la couleur du parement. Quelques régiments eurent aussi le parement liseré. Le dessous du parement et l'avant-bras étaient fermés par des petits boutons. Les revers et les poches étaient ornés de gros boutons. Tous étaient empreints du numéro du régiment. Les casques furent retirés aux fantassins et remplacés par des chapeaux. Ils étaient bordés d'un galon d'argent pour les sous-officiers et de fil blanc pour la troupe. Les grenadiers conservaient le chapeau et le bonnet de peau d'ours orné de sa plaque de cuivre jaune timbrée de l'écusson aux armes du roi. Les hussards gardaient le shako et les dragons le casque. Le royal artillerie conservait l'habit, l'épaulette et la veste bleue de roi avec le parement, collet et doublure rouge.
1775. Un grand et un petit uniforme pour les officiers généraux.
Dans un second règlement du 2 septembre 1775, le maréchal Dumuy régla l'uniforme des généraux, des commissaires ordonnateurs et des commissaires des guerres. Les lieutenants généraux et maréchaux des camps et armées reçurent l'habit uniforme de drap bleu y compris les parements fermés en bottes et le collet. Il était garni de boutons de métal jaune gravés d'un motif en rosace. Il y en avait 12 sur l'habit, autant sur la veste, 3 sur chaque parement et chaque poche. Il conservait la veste écarlate doublée de serge blanche et la culotte de même couleur. L'habit, dont le collet était brodé, était parcouru sur son pourtour d'une broderie de filet d'or passé. Les lieutenants généraux avaient une double broderie au parement et 4 rangs aux poches. La veste était également bordée de la même broderie que l'habit et garnie de 12 boutons sur le devant et 3 sur chaque poche. Ces officiers reçurent un grand et un petit uniforme. Les deux étaient identiques, à l'exception de la broderie dont le dessin était réduit de moitié sur le petit uniforme. L'uniforme des maréchaux de camp était semblable à celui des lieutenants généraux, mais ne comportait pas la double broderie sur les parements et les poches. Les officiers généraux avaient un chapeau bordé d'un galon d'or. Ceux qui commandaient un régiment ou un corps particulier avaient le plumet blanc. Les lieutenants généraux et les maréchaux de camp portaient une redingote de couleur bleue de roi, accompagnée d'une rotonde brodée du galon de leur rang sur le devant, le collet et les poches. Leur manteau était également de couleur bleue de roi.
Contexte historique. La nouvelle organisation des troupes.
Le maréchal Dumuy mourut le mois suivant la publication de cette ordonnance. Il fut remplacé par le comte de Saint-Germain qui fut nommé secrétaire d'État à la guerre en octobre 1775. Saint-Germain, par une série d'ordonnances publiées le 25 mars 1776, poursuivit le travail d'uniformisation des régiments engagés par son prédécesseur. En effet, Dumuy, dans une ordonnance du 26 avril 1775, avait commencé à mettre la plupart des régiments d'infanterie, dont le nombre de bataillons variait de 1 à 4, à 2 bataillons. Saint-Germain appliqua aux régiments restants la même composition excepté celui du roi qui, par faveur spéciale, demeura à 4 bataillons. Chaque bataillon était composé de 4 compagnies de fusiliers. On créa dans chaque régiment une compagnie de grenadiers, une de chasseurs et une d'auxiliaires, de réserve. Désormais de même force et de même composition, les régiments présentaient l'avantage d'être engagés indifféremment sans tenir compte de leurs spécificités.
L'infanterie.
La nouvelle composition des régiments d'infanterie entraîna une réorganisation hiérarchique. Pour chaque régiment, il fut créé un colonel en second, un armurier, un quartier-maître trésorier et un adjudant sous-officier. Le quartier-maître trésorier, avec rang de lieutenant, était chargé de tenir le registre des recettes et des dépenses du régiment. L'adjudant, avec rang de premier sergent-major, avait autorité sur tous les sergents-majors des compagnies. Il remplissait toutes les fonctions que les aides-majors et sous-aides-majors remplissaient. Il fut créé dans chaque compagnie un sergent-major et un fourrier-écrivain. Le sergent-major était chargé de tous les détails du service et de la discipline. Ils avaient autorité sur les 5 sergents et les 10 caporaux de la compagnie. La fonction du fourrier-écrivain était d'être l'économe et l'écrivain de la compagnie. Plusieurs fois supprimés puis rétablis, leur rang a varié. Ils ont été établis sous les sergents et peu de temps après la dénomination de sergent fourrier fut donnée au premier sous-officier de chaque compagnie. En 1776, ils prirent rang entre le sergent-major et les autres sergents. Les chefs de bataillon, les aides-majors, sous-aides-majors, le quartier-maître, les fourriers et les appointés furent supprimés. Les hautes paies versées aux vétérans et à l'ancienneté étaient supprimées et remplacées par des primes de réengagement.
La cavalerie.
La cavalerie fut réduite à 24 régiments. Les 7 autres excédant ce nombre furent réunis aux 17 régiments de dragons pour porter cette arme à 24 régiments. Les hussards formèrent 4 régiments. Chaque régiment de cavalerie fut composé de 5 escadrons, dont 4 de cavalerie et 1 de chevaux légers. Chaque escadron était composé d'une compagnie. Un escadron d'auxiliaires était rattaché au régiment en temps de guerre. Il fut créé dans chaque régiment de cavalerie un maître de camp en second, un quartier-maître trésorier, un adjudant, un maître maréchal, un maître cellier, un armurier et dans chaque compagnie ou escadron un maréchal des logis en chef, un second maréchal des logis et un maréchal ferrant. Le maître cellier et le maître armurier avaient le rang de second maréchaux des logis. L'armurier et les maréchaux ferrants de chaque escadron avaient le rang de cavalier. Les aides-majors, sous-aides-majors, le quartier-maître, un porte-étendard sur 3, le timbellier et les timbales, les fourriers et les carabiniers furent supprimés. Les places de capitaine-lieutenant des compagnies des régiments colonel-général, de maître de camp général, de commissaire-général, les sous-lieutenants et cornettes furent également supprimés. Les hussards, dans une ordonnance qui leur était consacrée, recevaient une organisation identique à celle de la cavalerie avec les mêmes créations et suppressions d'emplois. Les régiments de dragons furent composés comme la cavalerie de 5 escadrons, dont 4 de dragons et 1 de chasseurs à cheval. L'escadron d'auxiliaires n'était formé qu'en temps de guerre. Les emplois d'officiers et de sous-officiers furent soumis aux mêmes créations et suppressions.
L'endivisionnement.
Après avoir donné une composition identique à tous les régiments de cavalerie et à tous les régiments d'infanterie, Saint-Germain les regroupa en divisions. Dans un règlement du 25 mars 1776, la France fut partagée en 16 divisions militaires, chacune correspondant à l'aire géographique d'une, deux ou trois provinces. Chaque division comprenait un nombre variable de bataillons d'infanterie, d'artillerie et d'escadrons de cavalerie, de dragons, de hussards et de cuirassiers. Saint-Germain supprima, dans une ordonnance du même jour, les charges d'inspecteurs généraux d'infanterie, de cavalerie, de troupes légères et celles d'inspecteurs des hussards. Afin de permettre aux généraux de conserver et d'améliorer leur aptitude à commander, il plaça à la tête de chacune de ses divisions un lieutenant général secondé par 3 maréchaux de camp. Ces officiers furent chargés de veiller à l'exécution des ordonnances, d'assurer dans toute l'étendue de leur commandement l'unité du service, le maintien du bon ordre, de la subordination et de la discipline. Il demeurait subordonné au gouverneur, mais il rendait compte directement au secrétaire d'État de la guerre de tout ce qui intéressait les troupes qui leur étaient confiées. À la suite de ces restructurations, parut l'ordonnance du 25 mars 1776 portant sur l'administration de tous les corps tant d'infanterie que de cavalerie, dragons et hussards. Elle traitait de l'habillement, des remontes, de la discipline, de la subordination, de la police intérieure, des punitions, des récompenses, de la nomination aux emplois vacants, de la formation des troupes en division, des congés, des revues des commissaires des guerres et celles des officiers généraux. Le ministre ordonna la suppression de la régie qu'il remplaça par un conseil d'administration qui fut créé dans chaque régiment de cavalerie, d'infanterie, de dragons et de hussards. Cette ordonnance précisa quelques points de détail pour l'habillement. Ainsi, pour réfréner le zèle des officiers, elle établissait une liste des sous-vêtements que le soldat devait avoir en sa possession, les objets nécessaires à sa propreté. Avec cette ordonnance, les soldats et chasseurs à pied percevaient trois paires de guêtres, une noire pour l'hiver et deux blanches pour l'été et les parades. Elle en supprimait l'usage pour les cavaliers, chasseurs à cheval, dragons et hussards qui cossayaient les bottes avec les éperons et dont on exigeait désormais qu'ils eussent les cheveux peignés et mis dans une bourse en crapaud et frisée sur les côtés d'une boucle uniforme. Elle confirmait la suppression des hautes paies accordées aux rangagés et les remplaçait par des primes. Les chevrons d'ancienneté étaient maintenus.
1776. Saint-Germain fixe l'habillement et l'équipement dans ses moindres détails.
Après avoir réglé tous les sujets liés à l'administration des corps, Saint-Germain, dans un règlement du 31 mai 1776, prescrit avec plus de détails les nouvelles modifications concernant l'habillement, l'équipement, le harnachement et l'armement pour l'infanterie, la cavalerie, les dragons, les hussards et les généraux. Ce règlement qui précisait les quantités de chaque espèce de fourniture nécessaire à la confection de chacune des parties de l'habillement, comprenait également des instructions précises pour les différents chefs tailleurs. Pour s'assurer de l'uniformité de l'habillement, chaque régiment reçut un modèle confectionné.
L'infanterie.
L'infanterie conservait l'habit blanc. Dans ses nouveaux effets, elle recevait une ceinture de laine croisée blanche dont la longueur était ajustable à l'aide de boutons, une redingote façonnée en drap réglée de la couleur distinctive de l'uniforme. Cette redingote ou capote était parementée sur le devant d'une bande couleur blanche. Le devant était garni, côté gauche, d'une rangée de 6 boutonnières et, côté droit, de 2 rangées parallèles de 6 boutons, permettant aux soldats de la porter plus ou moins flottante. Elle avait une poche côté droit, côté gauche, la poche était figurée. Elle était garnie, de chaque côté d'une épaulette identique à celle de l'habit veste. La culotte, en tricot blanc ou bleu pour le corps royal, était à pont-levis. Elle était maintenue au niveau de la ceinture par une rangée de petits boutons qui venaient s'attacher dans des boutonnières façonnées dans le gilet. L'habit veste conservait les revers et parements de la couleur tranchante réglée pour chaque régiment. Désormais les parements n'étaient plus formés par le retroussi de la manche, mais par l'ajout d'une bande de drap de la couleur distinctive. Les basques furent ornées d'une fleur de lys ou d'une grenade pour les grenadiers. Chaque épaule était garnie d'une épaulette doublée ou liserée de la couleur distinctive de l'uniforme. Les casques qui équipaient certains régiments furent supprimés. Les sous-officiers et soldats reçurent le chapeau de feutre d'un nouveau modèle. Il était à 4 cornes. Celles de devant et de derrière avaient été fortement relevées, celles côté gauche et côté droit restaient horizontales pour l'écoulement de l'eau. Il était bordé d'un galon de laine noire et garni d'un panache blanc. Les grenadiers, auxquels on retirait le casque et le bonnet à poils, avaient au chapeau un panache mêlé de plumes rouges et blanches, celui des chasseurs était de plumes blanches et vertes. Les cheveux étaient tenus dans un crapaud. Les créations et suppressions d'emplois entraînèrent de nouvelles marques distinctives de grades. Le sergent-major portait un double bordé de galons d'argent fin, l'un cousu sur le parement de l'habit veste et de la redingote, l'autre sur l'avant-bras au-dessus du parement. Les sergents portaient un simple bordé sur l'avant-bras, les fourriers écrivains portaient 2 bandes de galons d'argent, cousues en travers, sur le haut du bras. Les caporaux avaient 2 galons de laine placés au-dessus et parallèlement au parement. Ils étaient bleus pour ceux qui avaient l'habit blanc et blancs pour ceux qui avaient l'habit bleu ou rouge. L'habit des officiers ne différait de celui du soldat que par la qualité des draps. Les marques distinctives des grades des officiers par le jeu des épaulettes étaient maintenues selon l'ordonnance de 1762. Les nouveaux emplois de colonel en second, capitaine en second, lieutenant en second se distinguaient des officiers en premier par leurs épaulettes traversées de deux cordons de soie couleur de feu. Les officiers du grade de brigadier des armées portaient sur l'épaulette une étoile d'or ou d'argent en opposition à la couleur de l'épaulette. Le quartier maître trésorier portait la même épaulette que le lieutenant en second. L'adjudant portait l'épaulette à fond de soie couleur de feu traversée dans son milieu par deux cordons de tresse d'or ou d'argent suivant la couleur du bouton.
Cavalerie et dragons.
L'habit veste fut maintenu en drap bleu de roi pour tous les régiments de cavalerie et en drap vert foncé pour les dragons. Il recevait, comme l'infanterie, la ceinture en tricot blanc, un gilet de drap blanc avec une série de boutonnières dans sa partie inférieure afin de maintenir, grâce à des petits boutons, le pont-levis de la culotte. Les revers et parements de l'habit veste conservaient les couleurs tranchantes décidées pour chaque régiment. L'habit veste se fermait à l'aide d'un bouton situé près du col et par une série de crochets et dillettes répartis sur la longueur des revers. Ces agrafes se substituaient aux boutons qui étaient supprimés afin de ne pas gêner la mise en place du plastron cuirasse dont tous les cavaliers étaient désormais équipés. Les dragons conservaient le système de fermeture par bouton. Les manches étroites étaient ouvertes à leur extrémité et se fermaient à l'aide de quatre petits boutons, deux sur la manche et deux sur le parement. L'habit veste était orné dans la partie inférieure de ses basques d'une fleur de lys et possédait sur chaque épaule une épaulette doublée et liserée du drap de la couleur distinctive du revers. Le manteau de drap gris blanc piqué de bleu était maintenu dans sa forme. Pour les travaux d'écurie, chaque cavalier et dragon était pourvu d'une culotte à la marinière et d'un paletot de treillis. Les chapeaux et les casques de dragon furent supprimés pour être remplacés par le chapeau de feutre à quatre cornes identique à celui de l'infanterie. Les cheveux des cavaliers et dragons devaient être serrés dans un sac de veau noirci appelé crapaud. Les marques distinctives des maréchaux des logis en chef, des maréchaux des logis en second, des fourriers écrivains et des brigadiers étaient similaires à celles de l'infanterie. Le maréchal ferrant se distinguait par un fer à cheval en galon de fil ou de laine blanc ou jaune en fonction de la couleur du bouton cousu sur le haut de chaque bras. L'habit des officiers ne différait de celui du soldat que par la qualité des draps. Ils avaient un panache de plumes blanches à leur chapeau. Les marques distinctives des grades des officiers par le jeu des épaulettes étaient maintenues selon l'ordonnance de 1762. Comme pour l'infanterie, les maîtres de camp, capitaines et lieutenants en second portaient l'épaulette traversée dans le milieu par deux cordons de soie couleur de feu. Les officiers du grade de brigadier des armées se distinguaient par l'étoile d'or ou d'argent qu'ils portaient sur l'épaulette.
Les hussards.
Le drap vert, qui avait été donné au régiment de hussards par l'ordonnance du 21 décembre 1762, ne fut conservé que pour le régiment de Conflans. Celui de Bercheny reprenait le bleu céleste, celui de Chamboran optait pour le brun marron et celui d'Estrasy pour le gris de fer. L'habit, coupé à la hongroise, était composé d'une pelisse de drap, doublée d'une peau de mouton blanc, bordée de mouton noir, d'un dolman et d'une culotte de drap de la même couleur que la pelisse. Les galons et agréments de toute espèce étaient supprimés, seules les ganses nécessaires pour les boutonnières étaient conservées. Ils avaient l'écharpe de laine jaune, la sabretache de cuir noir ornée du chiffre du roi, en cuivre jaune. Ils conservaient le manteau de drap vert. Pour le soin des chevaux, les hussards reçurent un paletot en gilet long et d'une longue culotte de treillis écru. Les sœurs toutes et les gilets de tricot, dont ils se vêtaient pour accomplir cette tâche furent supprimés. Les bottes étaient à la hongroise en cuir noir. Ils avaient les cheveux retroussés en queue raccourcie à la longueur de 2 ou 3 pouces, les bonnets et chacosses de feutre noir avec une cocarde ou aigrette blanche. Les cheveux sur les tempes étaient noués à la hongroise, c'est-à-dire mis en tresse et lovés. Les chacos de feutre noir étaient bordés d'un galon de laine noire et ornés d'une aigrette blanche. Les marques distinctives du premier maréchal des logis consistaient en un double chevron en galon d'argent cousu sur l'avant-bras, le second maréchal des logis n'en portait qu'un. Le fourrier écrivain portait un galon d'argent cousu en biais sur la manche près de l'épaule. Les brigadiers portaient au-dessus du parement une double bande de fil blanc. L'habillement des officiers ne différait que par la qualité du drap. Leur sabretache en maroquin noirci était ornée du chiffre du roi en métal doré. La distinction des grades, constituée jusqu'alors par la combinaison d'agréments en galon appliqués sur les manches de la pelisse, de la veste, des poches et la culotte et de l'ornement de la sabretache constituée d'un galon d'argent et d'une frange avec graines d'épinards et nœuds de cordelière fut supprimée. Les différents grades des officiers étant similaires à ceux de la cavalerie, les officiers prirent l'épaulette suivant les mêmes dispositions que la cavalerie.
1778. Les charges vénales sont supprimées dans la maréchaussée.
Dans la grande ordonnance du 28 avril 1778, qui détaillait toutes les parties de son service, le roi entendait donner à l'arme une hiérarchie équivalente à celle des militaires pour permettre l'avancement dans ce corps. Jusqu'alors, les emplois de prévôt, lieutenant et exempt de la maréchaussée étaient des offices du royaume. À ce titre, chacun de ces officiers exerçait la charge pour laquelle il avait payé une finance. L'arme fut partagée en 6 divisions à la tête desquelles fut placé un inspecteur général. Les grades d'exempt et de sous-brigadier furent supprimés et on créa à leur place les grades de sous-lieutenant et de maréchal des logis. Le titre d'archer fut remplacé par celui de cavalier. L'uniforme fut composé d'un habit à la française bleu de roi avec parement, revers et collet de drap écarlate, d'une veste couleur chamois doublée de serge blanche et d'une culotte de peau, couleur naturelle. Son renouvellement fut fixé tous les 2 ans. L'habit était garni de 13 gros boutons et de 16 petits en métal blanc, portant un écusson à 3 fleurs de lys, environné de branches de laurier et d'olivier. L'épaule droite fut ornée d'une épaulette de drap bleu liseré d'écarlate, l'épaule gauche reçut l'aiguillette de soie blanche qui avait été abandonnée en 1756. Les maréchaux des logis, brigadiers et cavaliers reçurent en complément un manteau de drap gris blanc, piqué de bleu, à collet montant avec une rotonde en drap bleu, bordée d'un galon d'argent pour les chefs de brigade. Ils cossaient les bottes des dragons. Les sous-officiers et cavaliers reçurent le chapeau aux ailes fortement relevées bordé d'un galon d'argent. L'aile gauche était ornée d'un gros bouton d'uniforme auquel s'attachait une ganse en fil d'argent et de la cocarde de basin blanc. Les cheveux étaient liés en queue et ceux des tempes ne devaient présenter qu'une seule boucle. Les maréchaux des logis étaient distingués par 2 galons d'argent cousus sur le parement, les brigadiers n'en portaient qu'un. Les inspecteurs généraux, assimilés aux maîtres de camp, portaient de chaque côté une épaulette de tresse en argent ornée de franges à graines d'épinards, nœuds de cordelière et cordes à puits. Les prévôts généraux, assimilés aux lieutenants-colonels de cavalerie, portaient à droite une seule épaulette. Les lieutenants portaient une épaulette en argent, ornée de franges comme celle des capitaines de cavalerie. Les sous-lieutenants portaient l'épaulette losangée de carreaux de soie écarlate, comme celle des lieutenants de cavalerie. Les prévôts généraux, lieutenants et sous-lieutenants, portaient sur l'épaule gauche l'aiguillette en fil d'argent, ou en argent et soie, comme les épaulettes attribuées à leur grade.
1779. Une couleur distinctive par série de régiments.
La gestion de l'habillement voulu par le comte de Saint-Germain s'étant révélée catastrophique pour le trésor, le roi, dans une ordonnance du 21 février 1779, arrêta un nouveau règlement pour y mettre fin. La gestion en régie fut rétablie et l'on s'appliqua d'obtenir un habillement moins coûteux en réduisant au mieux les tissus de différentes qualités et couleurs entrant dans leur confection, en ramenant l'uniforme de chaque arme à un modèle standard unique et en créant des effets utilisables dans toutes les armes. L'habit à la française remplaça l'habit veste. Les ordonnances précédentes distinguaient les régiments entre eux par la combinaison de différentes couleurs appliquées au collet, au parement, au revers, à la couleur du liseré de la patte de poche, à son inclinaison, au nombre de boutons, à leur couleur. Cette profusion de couleurs et de combinaisons, que le ministre Montbarret qualifiait de « vaine parure », fut ramenée à des proportions beaucoup plus modestes. Pour atteindre ce but, les régiments furent regroupés en série et on affecta à chacune d'entre elles une couleur. Cette simplification permit, non seulement de réduire grandement les quantités d'étoffes de couleur en temps dans la confection des uniformes, mais permit également aux généraux d'armée de reconnaître plus facilement les différents régiments qu'ils avaient sous leur commandement.
L'infanterie.
Ainsi, l'infanterie, toute de blanc vêtue, fut rangée, par ordre d'ancienneté, en 10 séries de 6 régiments, sauf les régiments royaux et ceux des princes. Chaque série fut subdivisée en 2 divisions de 3 régiments chacune. On affecta à chaque série une des couleurs distinctives suivantes, bleu céleste, panne noire, violet, gris de fer, rose, jonquille, cramoisi, gris argentin, aurore et vert foncé. Pour caractériser les divisions, on donna à la première de chaque série les boutons jaunes et les poches en travers et à la seconde les boutons blancs avec les poches en long. Pour différencier les régiments dans une même division, on agrémenta de la couleur distinctive le parement et le revers du premier régiment, uniquement le revers du deuxième et uniquement le parement du troisième. les revers ou parements des 2e et 3e régiments, qui n'étaient pas agrémentés de la couleur distinctive, étaient détachés, comme les pattes des poches, par un passepoil de la couleur tranchante. Les revers étaient ornés de petits boutons d'uniforme placés sur toute leur longueur. Les sous-officiers et soldats portaient une épaulette et une contre-épaulette liserée de la couleur distinctive ornée d'un petit bouton. Celles des grenadiers étaient en drap rouge et blanc, celles des chasseurs en drap vert et blanc. Les collets de couleur furent supprimés, seul fut maintenu le collet droit de basin blanc. Les retroussis des fusiliers étaient garnis d'une fleur de lys, ceux des grenadiers d'une grenade et ceux des chasseurs d'un corps de chasse. Les boutons étaient en cuivre ou en étain. La durée des habits, vestes et gilets, fut à nouveau fixée à 3 ans. Les bonnets à poils des grenadiers furent supprimés. Comme les chasseurs et fusiliers, ils coiffèrent le chapeau coupé rond bordé d'un galon de laine noire. L'aile côté gauche était maintenue relevée par une ganse noire attachée à un petit bouton uniforme. Il était orné d'une cocarde de basin blanc. Les grenadiers et leurs sous-officiers portaient au-dessus de la cocarde une houppronde de laine rouge. Les chasseurs et fusiliers n'en portaient pas. Les cheveux furent liés en catogan couverts d'une corne noircie. Les marques distinctives des grades de sous-officiers étaient maintenues telles qu'ils avaient été définis par le règlement du 31 mai 1776. Ils furent toutefois garnis d'un passepoil de la couleur du régiment pour les rendre plus apparents. Les chevrons des soldats engagés étaient maintenus. L'habit des officiers était identique à celui de la troupe. Il ne différait que par la qualité des matières. Les marques distinctives des grades, définies par le règlement du 31 mai 1776, furent conservées.
La cavalerie.
Les régiments de cavalerie furent à leur tour divisés, suivant leur ancienneté, en 8 classes de 3 régiments chacune. On affecta à chaque classe une des couleurs suivantes, écarlate, jonquille, cramoisie, aurore, rose, gris argentin et bleu céleste. La couleur de distinction fut appliquée sur les parements et revers suivant le même principe que pour l'infanterie. Tous les régiments reçurent le bouton blanc sauf les régiments de la première classe dans laquelle se trouvait le régiment du colonel général, qui eurent les boutons jaunes. Les cavaliers conservaient l'habit en drap bleu de roi, la veste en drap chamois, la culotte de peau de couleur naturelle, le manteau de drap gris blanc piqué de bleu et percevaient un surtout de tricot sous lequel ils portaient le gilet. Les cavaliers coiffèrent le même chapeau à 3 cornes que celui de l'infanterie, mais légèrement plus haut pour y glisser la discrète. Leurs cheveux étaient liés en queue couverte de rubans noirs. Ils cossayaient des bottes demi-fortes en cuir de vache souple et percevaient une paire de guêtres noires, identiques à celles de l'infanterie, pour effectuer le service à pied. L'habillement des officiers ne différait que par la qualité du drap. Les marques distinctives de grade des officiers et sous-officiers étaient inchangées. L'habillement des sous-officiers et cavaliers était composé d'un habit à la française, doublé des couleurs distinctives de chaque régiment, d'une veste et d'une culotte de peau. La durée de l'habit et de la veste fut fixée à 6 ans. Un surtout fait en frac garni de 8 gros boutons et le manteau de drap gris blanc piqué de bleu complétaient l'habillement.
Chevaux légers.
Les 6 régiments de chevaux légers furent vêtus d'un habit à la française en drap bleu naturel. Chaque régiment reçut une des couleurs distinctives qui avaient été retenues pour la cavalerie. Ils eurent les boutons blancs timbrés d'un cheval monté. Ils reçurent l'aiguillette plate blanche losangée de la couleur du régiment sur l'épaule gauche.
Dragon.
Les régiments de dragons furent partagés en fonction de leur ancienneté en 6 classes ayant chacune une couleur distinctive. Ils étaient vêtus de l'habit vert foncé, de la veste et de la culotte blanche. Chaque classe comportait 2 divisions à 2 régiments sauf la première qui en comportait 3. La première division avait des boutons gaudronnés et timbrés jaunes, la seconde les avait blancs. Ceux qui avaient les boutons jaunes avaient les poches en travers, ceux qui avaient les boutons blancs avaient les poches en long. Le premier régiment de chaque division avait les revers et parements de la couleur de la classe, le second, le revers seulement. Ils conservaient les bottes molles en cuir de veau et percevaient une paire de guêtres noires identiques à celles de l'infanterie, pour effectuer le service à pied. Les dragons, officiers compris, continuaient de porter le casque en cuivre jaune.
Chasseurs à cheval.
Comme les dragons, les chasseurs à cheval avaient l'habit en drap vert foncé, mais sans poche. Ils avaient la veste de drap chamois, la culotte de peau. Les 6 régiments reçurent une couleur distinctive et les boutons blancs timbrés d'un corps de chasse et du numéro de chaque régiment. La couleur de distinction s'appliquait pour les 6 régiments sur les revers et les parements. L'habit fut garni sur l'épaule gauche d'une épaulette à fond blanc, losangée de la couleur du régiment.
Hussards.
Les 4 régiments de hussards conservaient l'uniforme coupé à la hongroise en drap de la couleur affectée à chaque corps. Pelisse et veste en drap bleu céleste foncé pour le 1er régiment, brun marron pour le 2e, vert pour le 3e avec bouton blanc et gris argentin pour le dernier avec bouton jaune. Cet habillement était composé d'une pelisse de drap, doublée d'une peau de mouton blanc, bordée de mouton noir, d'un dolman de drap de couleur pareille à la pelisse et d'une culotte de drap de la couleur de l'uniforme. On simplifia l'uniforme en supprimant les galons et agréments de toute espèce. Seuls les gants en laine ou fil de couleur nécessaires pour les boutonnières furent conservés avec 3 rangs de boutons de métal. Une ganse identique à celle des boutonnières couvrait les coutures du dolman, de la pelisse et les ouvertures de la culotte. Les hussards portaient le shako de feutre noir, façonné à la hongroise et bordé d'un galon. Ils avaient les cheveux retroussés en queue raccourcie à la longueur de 2 ou 3 pouces. Leur uniforme particulier imposa l'abandon de l'épaulette pour des marques distinctives de grades particulières. Indépendamment des parties d'habillement, toutes ces formations montées reçurent un surtout et un gilet supplémentaire. Les 9 étaient réservés à la parade, les usés aux travaux d'écurie, corvées et manœuvres.
Les régiments particuliers.
On attacha aux régiments royaux, formant une série de 7, le bleu de roi, au régiment des princes, formant une série de 10, l'écarlate. Les troupes provinciales eurent l'habit blanc à revers bleu et les régiments coloniaux l'habit bleu. Le corps royal d'artillerie conservait son habit de drap bleu de roi avec parements et doublure rouge. L'habillement de la gendarmerie fixé par le règlement du 18 février 1772 et celui de la maréchaussée réglé par l'ordonnance du 28 avril 1778 était maintenu.
1786. Le marquis de Ségur redéfinit l'uniforme dans ses moindres détails.
Avec le règlement du 1er octobre 1786, le marquis de Ségur, nouveau secrétaire d'État, élabora un texte qui reprit l'ensemble des dispositions qui avaient été prises sur l'habillement et l'équipement des troupes et apporta de nombreuses précisions sur des détails qui avaient fait l'objet de polémiques. Cette grande ordonnance devait être la dernière élaborée par l'ancien régime sur l'uniforme dans les armées. Elle n'allait pas s'effacer immédiatement, mais allait devenir un texte de référence pour l'élaboration des règlements qui lui succéderont.
Les officiers généraux.
Ce règlement conservait aux lieutenants généraux et maréchaux de camp leurs grands et petits uniformes tels que décrits dans le règlement du 2 septembre 1775, mais il mit officiellement en vigueur l'usage des étoiles. Maréchal de camp et lieutenant général. Les uniformes étaient composés chacun d'un habit de drap bleu de roi avec les parements fermés en bottes et le collet droit de même couleur, mais sans revers, d'une veste et d'une culotte de drap écarlate. L'habit de grand uniforme était orné d'une large broderie de filet d'or passé et fermant par une seule rangée de 12 boutons. La veste était bordée de la même broderie que l'habit et garnie sur le devant de 12 boutons. L'habit et la veste de petit uniforme étaient exécutés et bordés comme pour le grand uniforme à la différence que la broderie était réduite de moitié. Le grand uniforme avec chapeau bordé d'or n'était porté qu'à la Saint-Louis et aux grandes cérémonies ou occasions de parade. Le petit uniforme devait seul être en usage à l'armée dans les garnisons ou les camps et porté avec veste et culotte blanche, chapeau uni à plumes et noires.
Distinction des grades.
Les lieutenants généraux avaient 2 rangs de broderie sur les parements de l'habit et 4 rangs aux poches, dont 2 au-dessous et 3 rangs à la poche de la veste. L'habit et la veste des maréchaux de camp étaient semblables à ceux des lieutenants généraux, mais sans double broderie aux parements et aux poches de l'habit. Les officiers généraux qui étaient commandants de régiments ou attachés à un corps particulier pouvaient en porter l'uniforme. Ils se distinguaient alors en mettant un plumet blanc à leur chapeau, et en rajoutant aux épaulettes de maître de camp commandant, 3 étoiles pour les lieutenants généraux et 2 pour les maréchaux de camp. Ces étoiles, en or ou en argent, étaient en opposition avec la couleur or ou argent de la tresse de l'épaulette. L'épaulette de maître de camp commandant, ornée d'une seule étoile, fut réservée au maître de camp et au lieutenant-colonel qui avait le grade de brigadier. Le chapeau des officiers généraux était bordé d'un galon d'or semblable à celui ornant l'habit. Ils ne pouvaient porter le plumet blanc que sur le chapeau uni. Leur manteau bleu de roi était bordé de la même broderie, double pour les lieutenants généraux et simple pour les maréchaux de camp. L'épée des lieutenants généraux et les maréchaux de camp était ornée d'une dragonne en galon d'or avec une frange en or à graines d'épinards et cordes de puits. Trois étoiles en argent étaient brodées sur le gland des dragonnes des lieutenants généraux et deux étoiles pour les maréchaux de camp.
Troupe à pied.
L'infanterie conservait son habit blanc aux poches figurées sur les basques par un passepoil de la couleur distinctive. Les revers furent élargis dans leur partie haute pour suivre le contour du collet et se terminer au bord de l'épaulette. Les parements, serrés aux poignets, étaient ouverts sur le côté et se fermaient à l'aide de deux boutons. Les habits, dont les parements et les revers étaient de la couleur du fond, étaient détachés par un passepoil de couleur tranchante. Les sous-officiers et soldats des compagnies de fusiliers portaient une épaulette et une contre-épaulette en drap du fond de l'habit, liserée de la couleur tranchante avec un petit bouton. Celle des grenadiers était en drap écarlate liséré de blanc auxquels on retira la houppe. Il en fut de même pour les chasseurs qui les avaient vertes liserées de blanc. Les retroussis des habits des fusiliers conservaient la fleur de lys, ceux des grenadiers la grenade et ceux des chasseurs le corps de chasse. Les boutons étaient de cuivre ou d'étain, suivant l'uniforme affecté à chaque régiment. Les gilets furent supprimés, la culotte à pont-levis conservée. La durée des habits et des vestes fut fixée à 3 ans. Le chapeau de feutre à 3 cornes bordé d'un galon de laine noire et de sa cocarde de basin blanc fut conservé. Celui des grenadiers fut orné au-dessus de la cocarde d'une houppe de laine écarlate, celui des chasseurs d'une houppe verte, celui des fusiliers, d'une houppe de la couleur de leur compagnie, celle des adjudants était blanche. Ils conservaient le bonnet de police en forme de pocalem orné d'une fleur de lys pour les fusiliers, d'une grenade pour les grenadiers et d'un corps pour les chasseurs.
Les marques distinctives de grade.
Les adjudants conservaient l'épaulette à fond de soie couleur de feu, traversée, dans le milieu de sa longueur, de 2 cordons de tresse d'or ou d'argent, suivant la couleur du bouton. Le double bordé d'argent fin des sergents-majors sur le parement fut remplacé par 2 galons d'argent placés obliquement sur l'avant-bras. Les sergents n'en portaient qu'un. Les fourriers conservaient les 2 galons d'argent cousus en travers sur le haut du bras. Les caporaux eurent les galons de laine placés comme les sergents-majors. Ils étaient bleus pour les régiments qui avaient l'habit blanc, et de fil blanc pour les régiments qui avaient l'habit, soit bleu, soit rouge. Les appointés n'en portaient qu'un. Les soldats charpentiers se distinguaient par 2 haches en sautoir cousues sur le haut du bras, les hommes rengagés, continuaient de porter le chevron ou le double chevron. L'habillement des officiers était identique à celui des soldats hormis la qualité des matières. Ils portaient en été des vestes et des culottes de basin blanc et en hiver, des culottes et des bas de laine noire. Leurs chaussures étaient ornées d'une boucle en argent. Ils devaient avoir les cheveux liés en catogan. Les marques distinctives de leur grade continuaient d'être réglées conformément aux prescriptions du règlement de 1779. Cependant, de nouveaux emplois avaient été créés. Ainsi, après le maître de camp commandant et le maître de camp en second, on vit apparaître le maître de camp à la suite. Pour le distinguer, on lui donna les épaulettes du maître de camp commandant, mais coupées dans leur milieu par 2 cordons de soie couleur de feu. Il en fut de même avec l'emploi de capitaine de remplacement qui s'ajouta aux capitaines commandants et capitaines en second. Il portait l'épaulette des capitaines commandants sur l'épaule gauche traversée en son milieu par 2 cordons de soie tressés couleur de feu. On créa également les sous-lieutenants de remplacement qui portaient l'épaulette des sous-lieutenants, mais traversée, dans son milieu, par 1 cordon d'or ou d'argent tressé. Les quartiers maîtres trésoriers, qui suivant le rang qu'ils avaient obtenu dans le régiment, pouvaient porter l'épaulette des lieutenants en premier ou en second. Le hausse-col de cuivre doré, orné d'un médaillon en argent aux armes du roi, fut maintenu. L'entretien de l'équipement et l'hygiène corporelle furent renforcés. La moustache fut interdite sauf pour les grenadiers qui avaient toujours interdiction de les graisser. Les cheveux furent liés en catogan et enveloppés dans un cuir noirci. Le soldat devait être bien peigné, son habit bien ajusté et entièrement boutonné. Les couleurs affectées au régiment suivant leur classe étaient conservées. L'habillement du corps royal de l'artillerie, façonné exactement dans les mêmes formes et proportions que celui de l'infanterie, était toujours de drap bleu de roi, avec doublure rouge pour l'habit et blanche pour la veste. Le collet et les épaulettes étaient de drap bleu, les parements de drap écarlate, les poches en travers étaient figurées et détachées du fond de l'habit, comme les revers, par un liseré de drap écarlate, les boutons jaunes numérotés. Les marques distinctives pour les sous-officiers étaient de galons d'or, celles des caporaux et appointés, de galons de laine jaune. Les chevrons en laine jaune étaient destinés aux soldats de première et de deuxième classe et les chevrons en laine rouge au rangagement.
Les troupes montées.
L'habillement de la gendarmerie demeura tel qu'il fut fixé par les règlements particuliers des 18 février 1772 et 4 avril 1781. Celui de la maréchaussée demeura conforme à l'ordonnance du 28 avril 1778 à l'exception des manteaux qui furent en drap bleu parementé d'écarlate. L'habit et la veste des régiments de cavalerie et de dragons furent réalisés sur le même modèle que ceux de l'infanterie. La veste ne comportait ni parement ni collet de la couleur de distinction. Tous les régiments de cavalerie portaient l'habit en drap bleu de roi, avec poche en travers, la veste en drap blanc, la culotte de peau blanchie et le surtout de drap bleu. La culotte uniforme était de peau de daim. Les régiments de dragons portaient l'habit en drap vert foncé, la veste en drap blanc, la culotte de peau blanchie et le surtout de drap vert. Les sous-officiers et cavaliers percevaient un surtout et un gilet taillé dans des étoffes usagées. Le surtout, façon frac, était garni de boutons, de l'épaulette et de la contre-épaulette. Un manteau de drap gris blanc piqué de bleu orné de brandebourgs complétait l'habillement. Celui des dragons avait un capuchon. La cavalerie coiffait le chapeau semblable à celui de l'infanterie, mais plus haut pour y glisser la discrète. La cocarde était identique à celle de l'infanterie. Ils avaient les chevaliers en queue couverte de rubans noirs. Les dragons conservaient le casque en cuivre jaune avec cimier et rosette de même métal, garni d'une crinière noire et recouvert d'une fourrure de peau de chien marin. Ils avaient les chevaliers en catogan, avec un ruban noir noué en rosette. Les quatre compagnies de chaque régiment reçurent une couleur unique suivant leur numéro d'ordre. Chaque compagnie se distinguait par une ouperon en laine portée au-dessus de la cocarde dans la cavalerie, au-dessus de la rosette gauche pour le casque des dragons. Elle était écarlate pour la première compagnie, bleu céleste pour la seconde, rose pour la troisième et souci pour la quatrième. Les deux adjudants, le maître maréchal, le maître cellier et l'armurier portaient la houppe blanche. Le bonnet de police, façonné à la dragonne, fut conservé. L'habillement des officiers de cavalerie et des dragons ne différait de celui de la troupe que par la qualité du drap. Les officiers de cavalerie étaient coiffés du même chapeau que celui des cavaliers, garni d'une cocarde de basin blanc et d'une houppe en poil de chèvre de la couleur affectée à leur compagnie. Celle des officiers de l'état-major était blanche. Les officiers de dragons avaient le chapeau et portaient le casque en service. Les manteaux des officiers de cavalerie étaient de drap bleu, ceux des dragons étaient verts. Les officiers de cavalerie et de dragons devaient toujours être en tenue au régiment. Les marques distinctives des grades étaient similaires à celles de l'infanterie. Les couleurs affectées au régiment suivant leur classe étaient conservées. L'habillement des sous-officiers et hussards était coupé à la hongroise, en drap des couleurs affectées à chaque régiment. Il était composé d'une pelisse, d'un dolman et d'une culotte. La pelisse et le dolman étaient garnis de 36 agréments ou boutonnières, formés avec des ganses carrées de laine ou de fil des couleurs affectées à chaque régiment. Les coutures étaient recouvertes d'une ganse plate de la même couleur que celle réglée pour les boutonnières. La doublure de la pelisse était de peau de mouton blanc bordée de mouton noir, avec au collet un gros cordon et un bouton en olive de la même couleur que les agréments. Les hussards avaient l'écharpe de laine cordonnée de couleur cramoisie, le manteau avec capuchon, un surtout et un gilet. Ils étaient coiffés d'un bonnet ou shako de feutre noir, façonné à la hongroise, doublé d'étoffes de laine des couleurs affectées à chaque régiment et bordé d'un galon. Ils avaient pour seconde coiffure le bonnet de police façonné à la dragonne. Les marques distinctives consistaient pour les adjudants à porter trois chevrons d'argent sur le bras, deux pour les maréchaux des logis en chef et un pour les maréchaux des logis. Les fourriers avaient deux galons d'argent cousus en travers sur la manche, les brigadiers, deux galons de fil blanc cousus au-dessus du parement, les appointés un seul. Les maréchaux ferrants et les rangagés avaient les mêmes insignes que dans la cavalerie. L'habillement des officiers était identique à celui des hussards et ne différait que par la qualité des draps. Lorsqu'ils étaient vêtus du surtout, ils portaient les épaulettes réglées pour les officiers de cavalerie. Lorsqu'ils ne le portaient pas, les marques distinctives des grades consistaient pour le maître de camp commandant et le maître de camp en second à porter à l'ouverture de la culotte et au parement, 5 galons, 2 larges et 3 fins, placés en chevron brisé. Le lieutenant-colonel en portait 4, 2 fins et 2 larges. Le major en portait également 4, 3 fins et 1 large, les capitaines commandant 4 fins, les lieutenants en premier et en second, 2 galons fins, les sous-lieutenants ne portaient qu'un bordé fin au retroussi du parement. Le quartier maître trésorier portait les deux galons fins des lieutenants. Par une décision du 24 novembre 1788, le comte de Brienne, secrétaire d'état de la guerre, supprima les catogans dans toute l'armée, seuls furent autorisés les queues de 10 pouces liées par une lanière de cuir comme celle de la cavalerie.
Contexte historique. Les réformes de 1788.
À la suite de l'ordonnance de 1786, ce ne sont pas moins de 40 ordonnances qui furent publiées entre le 30 septembre 1787 et le 14 mai 1788. Ces ordonnances portaient sur la composition des corps existants, la création et la suppression d'unités et leur administration en général. Le comte de Brienne présidait le conseil de guerre qui est à l'origine de ces ordonnances. Nous allons exposer succinctement les grandes lignes de cette réforme en nous appuyant sur une partie de ces ordonnances.
L'infanterie.
Le complet de l'infanterie fut fixé à 79 régiments français et 23 étrangers. Chaque régiment était à 2 bataillons. Le premier était constitué de 4 compagnies de fusiliers et une de grenadiers, le second, de 4 compagnies de fusiliers et une de chasseurs. Les emplois de maître de camp en second dans tous les régiments d'infanterie et de cavalerie étaient supprimés et Longrenadier, 1788 créa le grade de major en second. Les emplois de capitaines et de sous-lieutenants dits de remplacement, ainsi que les officiers dits attachés ou à la suite étaient également supprimés. Grenadier, 1788. La dénomination de bas-officier ne comprenait que les sergents-majors, les fourriers, les sergents et tambours-majors. Le caporal faisait partie du rang. Le titre de colonel fut substitué à celui de maître de camp. Le grade de brigadier des armées était supprimé. Ceux qui en étaient revêtus le conservaient jusqu'à extinction. Les colonels, lieutenants-colonels ou majors qui se distinguaient à la guerre par une action d'éclat recevaient une lettre de commandement qui leur permettait d'exercer sur tous les officiers de leur grade. Ils étaient distingués par une étoile d'or ou d'argent sur l'épaulette et sur le cordon de la dragonne de leur grade. Le nombre de lieutenants généraux fut fixé à 160. Celui des maréchaux de France fut fixé à 12. L'expérience ayant prouvé la nécessité d'avoir des unités autonomes et indépendantes pour éclairer la progression des troupes, on créa des formations spéciales que l'on désigna sous la dénomination d'infanterie légère. Pour donner à ces unités la consistance nécessaire à leur autonomie, il fut créé 12 bataillons de chasseurs. Ils étaient tous à 4 compagnies, commandées chacune par un capitaine commandant, un capitaine en second, un lieutenant en premier, un lieutenant en second, 2 sous-lieutenants, un sergent-major, un fourrier, 4 sergents, 8 caporaux et 8 appointés. Les bataillons étaient commandés par un lieutenant-colonel secondé par un major. Ces bataillons n'avaient pas de compagnie de grenadiers. Les chasseurs continuaient de porter l'uniforme prescrit par le règlement de 1786. Ils avaient l'habit, la veste et la culotte vert foncé avec les revers et les parements de la couleur affectée à chaque bataillon. Les retroussis des chasseurs à pied ou à cheval étaient ornés d'un corps de chasse. La culotte des chasseurs à pied fut faite en pantalon, c'est-à-dire qu'elle descendait jusqu'à la cheville. Celle des chasseurs à cheval était faite à la hongroise. Ils reçurent le surtout et le gilet de drap identiques à ceux de la cavalerie et le manteau de drap vert. Ils coiffèrent le chapeau à visière puis reçurent le casque en cuir bouilli à chenilles noires. Les compagnies se distinguaient par la houppe de couleur au chapeau. Comme la cavalerie, les adjudants, le maître maréchal, le maître sellier et l'armurier portaient la houppe blanche. Le bonnet de police, façonné à la dragonne, leur fut également donné. Les marques distinctives de grade étaient identiques à celles de l'infanterie pour les chasseurs à pied et identiques à celles des cavaliers et dragons pour les chasseurs à cheval. Les chasseurs à pied disparaîtront sous l'Empire.
Les troupes montées.
À cette époque, l'organisation de la cavalerie avait atteint son point culminant. Issue des compagnies d'ordonnances créées par Charles VII, elle a tiré successivement de ses rangs les dragons, qui eux-mêmes ont donné naissance aux chasseurs. Les hussards, de leur côté, ont paru et se sont développés. Elle ne comprenait plus désormais sous ce vocable que la grosse cavalerie, la cavalerie de ligne, avec ses cuirassiers, ses carabiniers et la cavalerie légère qui était définitivement constituée. Ainsi, le complet des troupes à cheval fut fixé à 24 régiments de cavalerie, 18 régiments de dragons, 12 régiments de chasseurs et 6 régiments de hussards. Les régiments de cavalerie et de dragons furent réduits de 4 à 3 escadrons. Les escadrons étaient formés de 2 compagnies. Chaque compagnie était commandée par un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant. Les régiments de hussards étaient composés de 4 escadrons et chaque escadron de 2 compagnies. Une ordonnance du 8 août 1784 avait créé 6 régiments de chasseurs comprenant chacun un bataillon de chasseurs à pied. Une ordonnance du 17 mars 1788 sépara les 6 bataillons de chasseurs à pied des 6 régiments de chasseurs à cheval. Les 6 bataillons, complétés par 6 autres bataillons tirés de l'infanterie, formèrent les 12 bataillons de chasseurs à pied. Les 6 régiments de chasseurs à cheval, complétés par 6 autres régiments tirés des dragons formèrent un corps de 12 régiments de cavalerie légère. La composition de ces régiments était identique à celle des hussards. Les escadrons furent placés sous le commandement d'un chef d'escadron. Le chef d'escadron était un officier subalterne dont le rang fut fixé entre celui de capitaine et celui de major en second. Comme pour l'infanterie, il fut créé un emploi de major en second qui avait autorité sur tous les chefs d'escadron. Il était subordonné au major qui devait rendre compte au lieutenant-colonel et ce dernier au colonel. Il portait pour marque distinctive les épaulettes de major tranchées dans leur milieu d'un cordon de soie couleur de feu. Le titre de colonel fut substitué à celui de maître de camp. Le corps des bas-officiers ne comprenait que les maréchaux des logis en chef et les maréchaux des logis. Les adjudants avaient le rang de premier maréchal des logis en chef. Les porte-étendards avaient rang de sous-lieutenant, le quartier maître trésorier avait rang de sous-lieutenant s'il avait servi comme bas-officier et rang de lieutenant s'il était tiré des porte-étendards ou des sous-lieutenants. Le maître maréchal, le maître tailleur et maître cellier avaient rang de maréchaux des logis, les autres maîtres ouvriers avaient rang de brigadier. Les brigadiers et appointés faisaient partie du rang. La solde fut payée à chaque fin de mois et non plus sur la base de 30 jours comme cela se pratiquait jusqu'alors. Les officiers supérieurs des troupes à pied et à cheval étaient tirés des régiments de leurs armes. Le changement d'armes leur était interdit afin d'assurer aux régiments d'être commandés par des officiers qui connaissaient l'arme. Les colonels parvenaient au grade de maréchal de camp au bout de 16 ans de service, les lieutenants-colonels au bout de 20 ans. Les maréchaux de camp n'étaient plus faits lieutenants généraux par le seul droit de l'ancienneté, mais au choix. Les 4 compagnies des gardes du corps du roi furent réduites chacune à un escadron. Cela entraîna la suppression de 400 chevaux. Les 8 compagnies d'hommes d'armes des ordonnances formant le corps de la gendarmerie étaient supprimées. L'embrigadement et l'endivisionnement permanent des troupes furent définitivement adoptés. Tous les régiments d'infanterie et des troupes à cheval étaient formés en brigades commandées par un maréchal de camp. Chaque brigade était composée de 2 régiments, chacun commandé par un colonel. L'ensemble des troupes était partagé en 21 divisions territoriales, comprenant 48 brigades d'infanterie, 218 bataillons et 32 brigades de cavalerie, 200 escadrons. Toutes les divisions, mixtes ou pas, étaient commandées par un lieutenant général. Les divisions furent réparties en 17 grands commandements placés sous l'autorité d'un commandant en chef qui, suivant l'importance des troupes en présence, était soit un maréchal de France, soit un lieutenant général. Il était secondé par un commandant en second du grade de lieutenant général ou maréchal de camp.
L'organisation militaire après la Révolution.
Jusqu'alors, le peuple avait fourni les soldats et la noblesse les officiers. Cette disposition fut changée par un décret du 1er février 1790. Chacun eut sa part aux emplois militaires et une armée véritablement nationale constitua la force militaire de la France. Par décret du 5 octobre 1790, l'Assemblée constituante remplaça les 3 états-majors de l'armée par des adjudants généraux. Une loi du 14 octobre suivant fixait à 30 leur nombre, dont 17 avec le grade de colonel et 13 avec celui de lieutenant-colonel. Leur fonction consistait dans les reconnaissances militaires, la direction des travaux topographiques, les mémoires relatifs au plan général des opérations de la guerre offensive et défensive, la transmission aux différents corps de toutes armes des ordres verbaux ou par écrit des généraux. Le 30 août 1792, leur nombre fut porté à 40. Dans une loi du 29 octobre 1790, concernant l'avancement militaire, l'Assemblée nationale revint sur la dénomination de sous-officiers. Ce corps comprenait pour l'infanterie, les sergents-majors, les sergents, les caporaux fourriers et les caporaux et dans les troupes à cheval, les maréchaux des logis en chef, les maréchaux des logis, les brigadiers fourriers et les brigadiers. Les adjudants formaient un corps à part. Les emplois d'officier comprenaient le grade de sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, lieutenant-colonel, colonel, maréchal de camp, lieutenant-général, maréchal de France. Le grade de major était supprimé. Ceux qui en étaient revêtus prenaient le grade de lieutenant-colonel. Les charges de colonels généraux, de maîtres de camp généraux, de commissaires généraux, celles de maréchaux généraux des logis, des maréchaux des camps et armées, et de lieutenants des maréchaux de France furent également supprimées. Ce décret établit 5 armes dans l'armée française, l'infanterie, la cavalerie, l'infanterie légère, l'artillerie et le génie. Une loi du 1er janvier 1791 fixa la composition de l'infanterie. C'est à cette occasion qu'on prescrivit la suppression des noms portés par les régiments et qu'on leur attribua un numéro distribué suivant leur ordre d'ancienneté. Un décret du 28 janvier suivant appela sous les drapeaux 100 000 volontaires nationaux, destinés à compléter les rangs de l'infanterie de ligne. Le 4 mars, une loi réduisait à 6 le nombre des maréchaux de France et à 30 celui des lieutenants généraux en activité. La compagnie de la prévôté de l'hôtel était supprimée le 10 mai et incorporée dans le corps de la gendarmerie nationale nouvellement créée. Elle était plus particulièrement affectée à la protection du corps législatif, de la haute cour nationale, du tribunal de cassation et du ministre de la justice. Les entre 28 et 29 mai suivants, une loi abolissait tous les titres de propriété de régiment de toutes les armes. Le 31 juin, une loi imposa que le premier drapeau, étendard et guidon de tous les régiments d'infanterie, de cavalerie et des dragons fut désormais aux trois couleurs nationales. Les autres drapeaux étaient aux couleurs affectées à l'uniforme de chaque régiment. Une loi du 21 octobre relative à la composition de l'armée fixa l'effectif de l'infanterie à 110 590 hommes et 30 040 cavaliers, non compris l'artillerie et le génie. Le nombre des officiers généraux fut fixé à 94. C.